Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence et merci d'être à l'écoute de Métropolez-vous, dont je salue les anciens et les nouveaux auditeurs, ceux qui découvrent pour la première fois cette émission dédiée aux grands sujets et aux grands projets de la métropole toulousaine. Nous nous y efforçons d'informer les citoyens de l'actualité qui concerne les domaines de compétences de Toulouse Métropole et d'y présenter les grandes réalisations et les événements de dimension métropolitaine. Mais tous autant que nous sommes, connaissons-nous vraiment l'ensemble du territoire de la métropole toulousaine, ses 37 communes, leur histoire, leur patrimoine et leur paysage? Qu'est-ce qui relie ces espaces et finalement justifie qu'ils étaient regroupés au sein d'une même collectivité? La réponse à cette dernière question se trouve peut-être dans un livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Loubatière, un ouvrage intitulé « Toulouse Métropole, une histoire en devenir ». Je vous invite à le découvrir tout au long de ce numéro qui lui est entièrement consacré. Et à l'occasion de la parution de Toulouse Métropole, une histoire en devenir, nous recevons Maxence Fabiani, éditeur aux éditions Loubatière. C'est donc votre maison qui publie ce livre dont l'auteur est, je le précise, le journaliste Philippe Brassard. Bienvenue monsieur et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, les éditions Loubatière sont bien connues dans notre région puisqu'elles ont été créées il y a plus de 40 ans par celui qui leur a donné son nom, le regretté Francis Loubatière. Quelle est aujourd'hui la ligne éditoriale de votre maison d'édition, est-ce qu'elle est spécialisée dans un genre ou dans des genres ?
Bonjour et merci de m'accueillir. Nous étions auparavant un peu généralistes et nous sommes au fil du temps, nous avons resserré la ligne éditoriale sur l'histoire et le patrimoine, essentiellement à travers des beaux livres ou des livres illustrés. Mais voilà, à partir de là, on recouvre à peu près le catalogue des éditions Loubatière.
L'histoire et le patrimoine, un des grands sujets de ce livre, Toulouse Métropole, une histoire en devenir. Comment est née l'idée de publier ce livre-là? Est-ce qu'on vous a soumis un cahier des charges ou est-ce que vous avez eu toute l'attitude pour le concevoir?
Alors non, l'idée, elle est venue en fait de nous-mêmes, puisque nous habiterons sur l'emprise de Toulouse Métropole. Et cette métropole, c'est quelque chose que l'on vit un peu sans trop le savoir et qu'on ne comprend pas toujours. Alors bon, je ne dis pas maintenant que je la comprends beaucoup mieux ou en tout cas parfaitement, mais tout de même un petit peu mieux après avoir fait ce livre. Et alors, deuxième question, non, nous n'avons pas eu de consigne particulière puisque ce projet de livre, nous l'avons soumis à Jean-Luc Moudinc qui l'a accepté parce qu'il n'existait rien d'équivalent. Il s'agissait de faire un livre s'adressant à tous les publics, donc il a été très enthousiaste. La seule recommandation, la seule chose à laquelle il a tenu particulièrement, c'est que chacune des 37 communes soit présente dans le livre et traitée à égalité. D'où ces portraits de ville qui font chacun une page, aussi bien Mons, qui est une toute petite commune de l'Est de la métropole, que Toulouse, évidemment, qui en est le centre. Après, bon, les communes sont citées chacune par-ci par-là lorsque le sujet s'y prête.
Un mot tout de même sur l'auteur de ces livres, Philippe Brassard. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire pourquoi vous l'avez choisi?
Alors Philippe Brassard, pourquoi? Parce que c'est un journaliste qui a exercé longtemps à la Dépêche du Midi, qui aussi a écrit des romans historiques et qui est quelqu'un d'extrêmement curieux, qui s'intéresse beaucoup à cette question métropolitaine. Donc nous lui avons demandé d'écrire ce livre, il a accepté et nous avons donc travaillé ensemble pour le réaliser.
Eh bien, grand merci pour cette présentation des éditions Loubatière et pour ce premier aperçu de la genèse et du contenu du livre Toulouse Métropole, une histoire en devenir. Nous entrerons bien sûr dans le détail de cet ouvrage avec vous dans quelques minutes. Pour l'instant, nous retrouvons Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Une nouvelle importante pour ouvrir ce flash, l'État s'engage à maintenir sa participation dans l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Effectivement Eric, il maintiendra sa participation de 10,01% au capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est en tout cas la promesse faite à l'issue d'une réunion par le ministre de l'Économie aux élus d'Occitanie. Bruno Le Maire a rappelé le rôle stratégique de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à la fois pour le développement du territoire et la compétitivité de ses entreprises, en particulier pour la filière aéronautique. nautique. Le ministre s'est également engagé à réunir à nouveau les acteurs locaux d'ici l'été pour aborder la question de la gouvernance de l'aéroport. De son côté, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu son ordonnance et a débouté les 3 syndicats de leur demande de mise sous séquestre des actions détenues par Casil dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Dans son ordonnance, le tribunal considère que c'est aux propriétaires des actions litigieuses, en l'occurrence l'État, à revendiquer la propriété des actions cédées à Casil et d'en demander la mise sous séquestre.
Nous poursuivons avec un autre sujet important qui nous concerne tous. Les citoyens métropolitains sont invités à donner leur avis sur la qualité de l'air.
Effectivement, Toulouse Métropole s'est engagée dans de nombreuses actions d'amélioration de la qualité de l'air. Elle a lancé une grande concertation volontaire jusqu'au 10 mai à destination du grand public. Objectif, recueillir vos contributions et idées sur la préservation de la qualité de l'air. Les sources de pollution liées à l'activité humaine sont dues notamment au transport et particulièrement le transport routier, mais aussi les chauffages des bâtiments, l'industrie et l'agriculture. Les principaux polluants émis peuvent être à l'origine de diverses pathologies, appareils respiratoires, cardiovasculaires ou encore sur le système nerveux. La mission de surveillance de la qualité de l'air est assurée sur le territoire de Toulouse Métropole par Atmo Occitanie, association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air par le biais de 14 stations de mesure fixes et de stations mobiles qui analysent en continu les différents polluants réglementés. Ces dernières années, le monde médical alerte sur l'enjeu sanitaire que représente la qualité de l'air pour l'ensemble de la population. Alors si vous désirez participer, direction le site internet www.toulouse-métropole.fr.
Et puis l'information est tombée cette semaine, le Parlement a approuvé les nouvelles règles concernant le droit d'auteur sur Internet mardi dernier.
Effectivement, les créateurs et éditeurs de presse pourront négocier avec les géants du net grâce aux nouvelles règles sur le droit d'auteur numérique qui protègent aussi la liberté d'expression. La directive vise à garantir que les droits et obligations historiques de la législation en matière de droit d'auteur s'appliquent également à la sphère numérique. YouTube, Facebook et Google News sont quelques-uns des noms familiers d'Internet qui seront les plus concernés par cette législation. La directive fait également en sorte qu'Internet demeure un espace de liberté d'expression. Elle vise à accroître les chances des titulaires de droits, notamment les musiciens, les interprètes et les auteurs de scénarios, ainsi que les éditeurs de presse, d'obtenir de meilleurs accords de rémunération pour l'utilisation de leur œuvre figurant sur les plateformes Internet.
Et on peut dire que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le monde du livre et les lecteurs dans les 37 communes du territoire métropolitain.
Oui, surtout que Toulouse Métropole s'implique aussi dans ce secteur à travers la lecture publique, avec l'animation de la coopération entre les élus de la commission culture autour des enjeux d'avenir de la lecture publique, le soutien et l'accompagnement des manifestations littéraires ou encore le soutien à la filière régionale du livre. En quelques chiffres, la métropole, c'est 52 bibliothèques, plus de 102 000 inscrits, un réseau dense de librairies dont 12 d'entre elles bénéficient du label « Librairie indépendante de référence » du ministère de la Culture et de la Communication et 4 manifestations littéraires d'envergure dans le domaine de la BD, du polar, de la littérature internationale et de la jeunesse.
Voilà, c'était donc le flash hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Maxence Fabiani. Vous souhaitez peut-être réagir à une des informations de ce flash. Je pense notamment à celle qui concerne les nouvelles règles pour le droit d'auteur sur Internet et la lecture publique dans la métropole toulousaine. Une information qui ne doit pas vous laisser indifférent.
Non, bien sûr, l'Internet ne peut pas continuer à être cette foire d'empoigne où tout le monde se sert, que tout le monde se serve dans les travaux des autres pour laisser des messages, des pensées ou je ne sais quoi. Là, ça ne pose pas de problème particulier. Ça en pose lorsque ce sont des entreprises qui monnaient chèrement une information ou un droit qu'elles n'ont pas acquis. Maintenant, ce que deviendra cette directive, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour en parler. Et sinon, sur la lecture publique, évidemment, oui, on applaudit toujours aux efforts qui sont faits en la matière. Je pense particulièrement aux bibliothèques. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour aller porter le plaisir de la lecture partout, y compris chez les publics en difficulté, les publics empêchés. Donc, bien sûr, on applaudit.
Merci, nous allons maintenant revenir au sujet principal de cette émission, la parution du livre Toulouse Métropole, une histoire en devenir aux éditions Loubatière.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropolez-vous la suite avec notre invité Maxence Fabiani, éditeur aux éditions Loubatière, où vient donc de paraître Toulouse Métropole, une histoire en devenir, sous la plume du journaliste Philippe Brassard qui a signé les textes de ce livre. Alors dites-moi, compte tenu des critères qui ont été retenus au départ, comment vous avez imaginé la conception, le contenu et le déroulé de ce livre? Est-ce que l'idée générale, c'était de montrer ce qui fait l'identité, la spécificité et l'unité de ce territoire métropolitain?
Alors, d'abord, l'idée, c'était de faire un livre accessible à tous les publics, pas trop techno, sûrement pas administratif, largement illustré parce que j'y reviendrai, largement illustré parce que bon, c'est important, c'est un véritable niveau de lecture tout autant que les textes. Mais l'idée, c'était surtout d'essayer de mettre en lumière, de mettre en avant ce qui formait du lien entre les différentes communes, alors à la fois horizontalement, c'est-à-dire sur le territoire, et en même temps aussi verticalement, c'est-à-dire dans la profondeur du temps. Dit comme ça, ça a l'air un peu complexe et ambitieux. Certes, ça l'était. Je crois qu'on est à peu près parvenu, mais sans évidemment tout traiter, parce que sinon, ce n'est pas un livre qu'il faudrait faire, mais une bonne cinquantaine. Et là, ce n'est pas du tout l'enjeu. Donc, nous avons choisi trois grandes parties, en fait, qui sont le territoire et l'histoire, le paysage. Deuxième partie, l'économie. Et troisième partie, l'art de vivre, on va dire.
Alors, il y a une chose qui interpelle avant même d'ouvrir le livre, c'est le titre « Toulouse Métropole, une histoire en devenir ». Évidemment, ça n'a pas été choisi par hasard. Est-ce qu'il s'agissait aussi, en dehors de ce que vous venez de dire, de mettre en valeur l'histoire la plus ancienne du territoire métropolitain et ses forces présentes pour l'avenir?
Eh bien oui, c'est exactement ça. Je crois que le titre dit clairement l'enjeu du livre. Donc, une histoire en devenir, ça peut se comprendre de plusieurs façons, mais c'est vraiment, il y a une histoire, effectivement, incontestablement, et elle reste en devenir parce qu'elle se construit tous les jours. Voilà.
Partant de là, de ces présupposés, de ces prérequis peut-être, une fois que vous avez identifié le contenu à donner au livre, comment vous avez procédé pour connaître l'histoire, pour recenser le patrimoine, la sociologie aussi, les activités économiques, les espaces naturels de chacune des communes? On travaille comment? On contacte les mairies, on contacte des historiens, on contacte des universitaires, des académies savantes?
Alors, un peu tout ça, on lit beaucoup. Beaucoup de connaissances existent déjà dans les livres, elles sont éparpillées, il faut les rassembler, il faut les contrôler, les vérifier, parce que parfois les sources sont fausses, tout simplement.
Oui. Voilà. Plus qu'apocryphes, elles sont carrément fausses.
Voilà, ça arrive, bah, souvent il y a quelque chose qui a été écrit un beau jour au 19e siècle, jamais vérifié, repris depuis.
Et c'est devenu une légende urbaine.
Sans désemparer, et, alors que c'est absolument faux. Alors il en reste peut-être quelques-unes, ça je ne me risquerai pas à ce jeu-là. Mais voilà, alors on a constitué un petit comité avec l'aide de la métropole, un petit comité de spécialistes qui se sont réunis une fois en fait pour examiner le plan de l'ouvrage tel qu'on le proposait. Le but du jeu était de leur demander si on n'était pas en train d'oublier quelque chose d'important. Mais en fait, non, nous n'avions rien oublié d'important. Donc on a pu commencer à travailler. Alors avec l'auteur, avec Philippe Brassard, nous sommes allés arpenter les routes de toutes les communes de la métropole. Voilà, on a beaucoup tourné, beaucoup circulé, beaucoup ensuite pris de notes, de photos et puis fait des vérifications pour essayer de relier un petit peu tout ça. Et s'en est suivi l'ouvrage que vous avez sous les yeux.
Alors après ce travail de consultation, de recherche et même d'exploration, comme vous venez de le dire, comment vous avez construit la trame du livre? On pourrait imaginer, on partirait du général, l'histoire, la géographie du territoire métropolitain d'ensemble pour aller vers le particulier, les communes une par une. Oui. Est-ce que vous avez procédé comme ça ou est-ce que c'est plus parcellisé que ça?
Alors,
plus impressionniste.
Oui, alors ça a un peu quelque chose d'impressionniste parce que, comment dire, les communes, il fallait les intégrer, mais il fallait trouver un moyen de les intégrer. Alors ça ne pouvait pas être un répertoire, parce que sinon, là, ça aurait été franchement lassant.
Un peu scolaire.
De voir 37 pages qui se succèdent, et puis vous les placer au début, au milieu, à la fin, on ne sait pas trop. Donc on les a, je dirais, presque un peu éparpillés, par ordre alphabétique. De temps en temps, ça tombe à peu près au bon endroit, là où on parle vraiment de quelque chose de significatif quant à la commune. Des fois pas, mais en fait, à l'arrivée, peu importe, parce que ça crée des respirations dans la lecture. Ces pages sont parfaitement identifiées, parfaitement différentes du reste du livre. Et en fait, à l'arrivée, on se rend compte que c'est le premier livre et le seul pour l'instant qui forme une sorte de récit, en fait, de ces 37 communes, où on parle un peu des origines jusqu'à la plus proche actualité.
Vous êtes remonté jusqu'à quand ? Jusqu'à l'époque romaine, mais au-delà même ?
Oui, au-delà, bien sûr, au-delà. Parce que, en fait, par exemple, à Colomiers, il y a des traces d'outils qui datent de moins de 100 000 ans. Pardon, c'est pas à Colomiers, je crois que c'est à Balma. Non, c'est peut-être à Colomiers, je me perds un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de traces existent. Alors, évidemment, ce sont des traces à la suite de fouilles, hein, qui sont faites lors de fouilles préventives ou non. Enfin, puis des fois, ce sont des choses qui ont été trouvées il y a déjà quelques siècles. Mais ça donne quand même une idée de l'occupation extrêmement ancienne de ce territoire. Et je dois dire que ça laisse quand même un peu rêveur de penser. Il y a quelques images dans le livre, par exemple des coteaux de Pêche David, desquels on voit Toulouse éclairée. Bon, bah, c'est exactement là que se posaient nos ancêtres pour, alors je ne sais pas quoi, parce que la nuit, c'était pas éclairé pour eux, ils ne devaient pas voir grand-chose. Mais enfin, de jour, ils devaient traquer des bêtes ou éventuellement voir arriver les ennemis.
Est-ce que vous avez consacré des chapitres particuliers à certains sujets ? Alors, on pense évidemment à l'histoire de l'aéronautique, mais ça peut être aussi le pastel, ça peut être l'histoire de l'université, de l'enseignement à Toulouse, la culture, le sport. Oui. On pense au rugby, évidemment. Oui. Peut-être aussi des chapitres à quelques grandes personnalités de l'histoire toulousaine, métropolitaine.
Oui, alors donc il y a ces trois grandes parties que j'ai citées tout à l'heure, qui sont constituées de différents chapitres. Bon, pour l'histoire et le paysage, c'est plutôt un plan chronologique. Et ensuite, pour l'économie, c'est plutôt un plan thématique, ainsi que pour l'art de vivre. Donc, dans ces plans thématiques, en fait, on trouve effectivement l'aéronautique, bien évidemment, qui est quand même une histoire formidable et tellement récente que ça en est toujours étonnant de penser qu'elle n'a qu'un siècle finalement. Et puis alors oui, il y a un chapitre sur l'université, il y a comme ça des chapitres tout à fait dédiés, et puis quelquefois c'est plutôt de l'ordre de l'encadrer, comme pour le pastel. Enfin, le pastel c'est un peu de la citation, parce qu'il n'y a plus grand chose quand même aujourd'hui. Par contre, nous n'avons, et c'est totalement volontaire, fait aucun portrait de personnalité, parce qu'alors là il aurait fallu tripler la pagination, devenait carrément impossible.
Oui. Est-ce que vous avez découvert des informations, des anecdotes, des personnalités ou des lieux originaux ou insolites que vous ignoriez complètement, connus seulement de quelques initiés ?
Ah oui, alors plein. Alors, connus quelques initiés, je ne sais pas. Mais plein, parce que cette histoire et cette actualité est extrêmement riche, extrêmement variée, sur un territoire qui est quand même relativement vaste, enfin, qui n'est pas minuscule. Et donc, on découvre beaucoup de choses. Alors, j'avais noté quelque chose, là. Est-ce que vous connaissez le ruisseau du Grand Port de Mer ?
Eh bien, ma foi, non. Je ne sais même pas où il se trouve.
Voilà, donc je vais vous le dire. Il se trouve à Quinfonce-Grive, parce que le réseau des rivières et des ruisseaux est quand même d'une très grande densité. Et on trouve là-dedans un petit ruisseau à Quin qui s'appelle donc le Grand Port de Mer. Et c'est un mystère, je ne sais absolument pas pourquoi, et personne n'a réussi à me donner l'explication. Sinon, il y a des découvertes, enfin qui sont des semi-découvertes, parce que c'est quand même très connu, mais par exemple la mairie de Launaguet, que je n'avais jamais vue en vrai, et qui est absolument somptueuse, puisque c'est un ancien château construit, donc non pas habité, mais construit par Virbin, qui avait ses ateliers installés à Launaguet. Après, le paysage de la métropole, bon, on le connaît assez. Alors, je ne dis pas que les surprises ont été multiples, sinon que beaucoup de choses se sont construites ces dernières années et que le paysage en a été parfois modifié. Mais je trouve que c'est surtout sur le plan de l'économie où on a vraiment découvert des choses, parce qu'on a évidemment un peu tendance à considérer qu'on est dans une industrie de l'aérospatiale et que toute la région et donc la métropole vit de ça. C'est évidemment vrai, mais pas que. Il y a eu une tradition de petite industrie jusque dans l'entre-deux-guerres à peu près à Toulouse. Et là on a fait des découvertes, parce que bon, il y avait des choses qu'on savait déjà, comme la chemiserie. La chemiserie a produit des millions de chemises chaque année à Toulouse pour tout le reste de la France. Et là, c'était vraiment des couturières qui étaient dans les ateliers, mais qui étaient aussi, qui travaillaient chez elles dans les communes de la périphérie toulousaine, donc sur la métropole. Ou bien, savez-vous que Toulouse était une ville très importante de la carrosserie hippomobile. Donc à Toulouse, on fabriquait des bus, je ne sais plus comment on appelait ça, enfin tractés par des chevaux. Évidemment, c'était avant le moteur à explosion. Et là, en fait, il y avait quelques fabricants qui exportaient, mais qui exportaient vraiment jusque loin, parce qu'ils exportaient jusqu'en Argentine, au Vietnam, en Espagne. Et bizarrement, en fait, cette tradition, on peut dire, enfin, cette industrie de la carrosserie n'a pas prospéré avec l'avènement de l'automobile. Mais aujourd'hui, en économie, on trouve quelques pépites, comme par exemple la société Cavantech, qui fabrique des luminaires de rue qui restent éteints mais s'allument dès qu'un piéton arrive à proximité.
Et donc, qui commence à être utilisé dans l'espace urbain
voilà,
à Toulouse.
Voilà, ça commence à être utilisé à Toulouse, ou bien les ateliers de la Haute-Garonne, qui sont à Quinfors-sur-Grive, et qui sont en fait le leader mondial du rivet aéronautique. Donc ces gens, qui sont installés à peu près en plein champ, fabriquent pour Airbus et pour Boeing, dérivés, c'est très important, ça, quand même, c'est ce qui permet de maintenir la superstructure de l'avion.
Très bonne qualité, effectivement.
Voilà, ils sont très bonne qualité. Et, voilà. Et donc, presque en plein champ, ils fabriquent 9 millions d'arrivées par jour. Et moi, je trouve ça assez fascinant et extraordinaire. Alors oui, bon, ils sont dans la filière aéronautique, mais c'est une entreprise familiale et indépendante.
Alors, puisque vous en parlez, après avoir rassemblé toutes les informations, dont celles que vous venez de citer, qu'avez-vous constaté dans les spécificités du territoire métropolitain ? Qu'est-ce qui fait à la fois son unité et sa diversité ? Et son originalité peut-être par rapport à d'autres métropoles françaises ?
Oui, peut-être. Alors, le territoire est assez homogène, en fait. Bon, il est un peu plus vallonné à l'est et au sud-est qu'au nord, mais c'est à peu près, je dirais, c'est sensible, hein. Quand on se promène, évidemment, à l'œil, c'est très sensible, les paysages ne sont pas les mêmes. Enfin, ils sont quand même, c'est la même terre, c'est la même végétation.
Oui, l'essence des arbres, c'est à peu près la même partout.
Voilà, c'est à peu près la même partout. Les bâtiments ont plus ou moins la même couleur. Donc, il y a vraiment une unité paysagère et aussi une unité du bâti. Ça, c'est une réalité. Après, l'autre chose qui saute aux yeux, mais là encore, c'est quelque chose qu'on le sait, mais si on ne quitte pas Toulouse, on le perçoit moins, c'est qu'on est vraiment... Toulouse, c'est une ville, hein. Oui, c'est une grande ville. Enfin, elle est vraiment implantée en pleine campagne.
Et, oui.
Et on est vraiment dans ce paysage qui est toujours à portée de main, visuellement, et qui est vraiment à portée de, même de course à pied, parce qu'on peut tout à fait sortir en quelques minutes et se retrouver...
Il y a un certain nombre de circuits de randonnée à pied ou à vélo qui se développent,
hein,
se font à Toulouse et dans la métropole, la traversée de part en part.
Et dans la métropole.
Et dans toutes les directions.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il y en a beaucoup, il y a un réseau qui est en plus connecté avec les transports en commun. Enfin, ça, je trouve que c'est une avancée assez incroyable et assez formidable.
À l'issue de ce travail, et ça rejoint un peu la question que je viens de vous poser, est-ce qu'il se dégage une identité métropolitaine selon vous ? Parce que quand on discute avec des élus métropolitains, ils parlent de faire en sorte que la population de ce territoire se sente métropolitaine. Est-ce que c'est concevable pour vous ? Est-ce que les gens qui habitent sur ce grand territoire métropolitain ont le sentiment d'appartenir à une métropole et pas d'abord et avant tout à une commune ?
Alors, il y a deux facteurs. D'abord, les habitants d'aujourd'hui ne sont plus les habitants d'il y a 50 ans.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, ils y étaient nés, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Bon, aujourd'hui, évidemment...
Ils sont moins enracinés, vous voulez dire.
Voilà, aujourd'hui, les habitants sont moins enracinés. Ceux-là sont parfois partis, parfois restés. Mais surtout, ceux qui sont arrivés sont venus d'ailleurs. Des fois de pas très loin, des fois du département d'à côté, mais en tout cas venus d'ailleurs. Donc, du point de vue de la profondeur de temps, évidemment, de leur enracinement, là, quelque chose a changé. Mais moi, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, le sentiment métropolitain existait à l'avènement de la métropolisation. Parce que, enfin, un habitant de Pimbalma, je crois qu'on dit un pinobalméen, quand il va, ne serait-ce qu'à Montauban, sans aller même jusqu'à Paris, et qu'on lui demande où il habite, il dit pas Pimbalma, personne ne sait où c'est. Ça, il le dit seulement quand il va à Balma. Mais sinon, il dit qu'il habite à Toulouse. Donc, de toute façon, ce centre, cet axe qu'est Toulouse, c'est évidemment ce par quoi la métropole rayonne. Non, moi, je pense que les gens se sentent métropolitains et qu'ils se sentiront de plus en plus. Mais ils habiteront toujours une commune, de toute façon.
Oui.
Alors, bon... Peut-être qu'un jour, certaines communes, comme déjà par le passé,
se réuniront
ou disparaîtront et ne deviendront plus qu'un quartier. Mais enfin, je pense qu'on ne sera plus là pour le voir.
Ouais. Et maintenant que vous avez un regard assez exhaustif, assez complet sur l'ensemble de la métropole, quels seraient, selon vous, ses forces et ses faiblesses, ses attraits et ses manques pour l'avenir ?
Alors, ces attraits, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette proximité du paysage naturel, ou même un peu réformé par l'homme, mais enfin quand même avec une très grande part de nature là-dedans, ça c'est un atout. Son inconvénient, je crois qu'il n'y en a pas énormément, sinon qu'il n'y a toujours pas la mer, et que ça, je pense que ça n'arrivera pas de sitôt.
Mais on a la Garonne, même si elle est de plus en plus basse, malheureusement.
Oui. Mais je pense qu'on pourrait craindre, et on peut craindre la densité, urbaine
et
démographique, mais qui de toute façon est inéluctable. Alors elle n'est peut-être pas un jour la courbe fléchira peut-être, mais pour l'instant elle ne fléchit pas. Mais au regard de cette démographie, ce dont j'ai l'impression, c'est que tout de même, les pouvoirs publics font de plus en plus attention, alors sans doute plus qu'il y a 20 ou 25 ans, mais en tout cas de plus en plus attention à ne pas gâcher cette espèce de pays de cocaïne dans lequel nous sommes, parce que ça c'est une réalité, et ils y font beaucoup plus attention qu'auparavant. Et ça se sent vraiment, quand on parcourt, comme je l'ai fait, de façon systématique, toutes ces routes et toutes ces communes, on est quand même surpris par la qualité, qui franchement n'existait pas il y a quelques décennies, par la qualité de l'urbanisation, qualité des routes, des abords, des zones même artisanales, ainsi de suite, qui est quand même vraiment, vraiment bien meilleure qu'auparavant.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Métropole et vous. Il faut donc conclure. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Maxence Faviani.
Merci
à vous. Et de nous avoir présenté le livre que viennent de publier les éditions Loubatière, la maison que vous dirigez. Toulouse Métropole, une histoire en devenir. C'est le titre de ce très bel ouvrage où l'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la région toulousaine, de la période romaine, même avant, jusqu'à nos jours. Et puis, on découvre aussi tout ce qui fait la richesse de notre territoire dans les domaines économiques, culturels, environnementaux, paysagers, patrimonial, avec de très belles photos pour illustrer les textes écrits par Philippe Brassard.
Je voudrais ajouter un mot et dire ici que une grande partie des photographies est due à Patrice Nin du service de communication de la mairie de Toulouse et de la métropole, et qui nous a vraiment beaucoup aidé par les choix d'images qu'il nous a soumis. Son travail sur la lumière est vraiment de grande qualité, donc il faut le remercier.
Je confirme que les photos sont magnifiques et chacune des communes métropolitaine fait l'objet d'une présentation. J'invite donc vivement tous les citoyens de Toulouse Métropole à se procurer ce livre et à l'offrir autour d'eux. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies dès ce vendredi 29 mars et vous pouvez bien sûr aussi consulter le site des éditions Loubatière pour vous renseigner, www.loubatière.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.